9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Les élections fédérales ont lieu aujourd'hui en Allemagne. Le moment de faire le bilan d'Angela Merkel, la première femme à avoir dirigé notre voisin d'Outre-Rhin. Stéphane Seydendorf est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite le journaliste Guillaume Pitron pour son livre enquête L'enfer numérique. On croit qu'Internet n'a aucun impact sur la planète, qu'on est dans l'immatériel, mais c'est faux. La pollution digitale est considérable, bien pire que la pollution due au trafic aérien. Et l'on terminera l'émission avec une grande pianiste, Claire-Marie Le Guay, qui consacre son nouvel album au grand compositeur Franz Liszt, véritable rockstar du 19e siècle, dont les mélodies restent déchirantes de beauté.
Europe 1.
Stéphane Seydendorf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. Vous enseignez à l'IEP de Strasbourg et à l'ENA. Vous êtes l'auteur du livre Le modèle franco-allemand chez Septentrion. Ce qui étonne le plus les Français à propos d'Angela Merkel, c'est sa longévité. 4 mandats d'affilée et elle aurait probablement pu se faire réélire une 5e fois. Pour nous, les Français, c'est absolument incompatible avec la République. Le dernier qui a réussi à se maintenir aussi longtemps au pouvoir, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et il lui a fallu un coup d'État et devenir Napoléon III. Alors comment a-t-elle fait Angela?
Le président Mitterrand, il y était presque, hein, avec 14 ans.
Oui, mais avec 2 cohabitations.
Sans blague, il y a une partie qui revient au système politique, ce jeu de coalition où un chancelier ou une chancelière doivent trouver une majorité au sein du Parlement. Elle dépend d'une majorité du Parlement. Et ça, cette recherche d'une coalition, d'une majorité, Angela Merkel, elle a très bien réussi à le faire. Elle a su gouverner avec différentes majorités, une fois avec les libéraux, une fois avec les sociodémocrates, que c'est ce que personne, hein, aucun chancelier avant lui avait réussi. D'autre côté, elle jouit toujours personnellement d'une très grande popularité. Vous l'avez dit, elle aurait pu éventuellement même se faire réélire. Et on peut effectivement se demander d'où elle vient cette popularité, puisque c'est pas forcément son programme, ce n'est son parti. C'est difficile à dire pourquoi elle est si populaire. Si on demande les démoscopes qui regarde de près scrute l'opinion publique, c'est sa personnalité, sa modestie, cette impression qu'elle donne d'être très assidue au travail, travailleuse, et puis cette image d'elle que personne puisse imaginer Angela Merkel mêlée à des scandales, à des caisses noires ou à des pots de vin ou quelque chose comme ça. C'est cela qui est beaucoup apprécié. Plus que le contenu de ses politiques, peut-être.
J'ai une autre suggestion, c'est le fait qu'elle parle peu. Elle donne de très rares interviews. C'est le contraire exactement des présidents français.
Là aussi, si on revient au président Mitterrand, il avait incarné ça, la rareté de la parole présidentielle. Effectivement, elle parle peu. Et puis quand elle parle, c'est pas pour cliver ou pour aller vers la confrontation avec l'adversaire. Elle a vraiment fait presque son modèle de cette façon de ne pas exposer les conflits politiques au public. Dans une société qui cherche toujours à rester relativement homogène avec une majorité de personnes âgées qui n'aiment pas le prix politique, le conflit politique, elle avait même théorisé à un moment qu'il vaudrait mieux garder les décisions difficiles, les conflits pour soi et exposer plutôt le résultat une fois que le compromis il est négocié et puis prétendre que c'était le seul compromis possible. Et il y a de ça, elle s'est beaucoup tenue à cette ligne, effectivement.
Il paraît qu'elle voulait partir en 2017, au bout de son 3e mandat, mais que c'est Barack Obama qui l'aurait supplié de rester pour assurer le leadership européen face à Donald Trump.
Oui, je sais pas, hein. J'ai pas insisté à la conversation. C'est possible, c'est beaucoup colporté. Ce qui est vrai, c'est que avec Barack Obama, elle a réussi à nouer une vraie amitié. À la fin, il l'avait décoré de la médaille de la liberté du président, la plus haute distinction pour une personne étrangère aux États-Unis. Et cela après des débuts un peu compliqués. Angela Merkel trouvait ça, vu de sa personnalité un peu raide, un peu protestante, elle trouvait ça un peu suspect, ce bruit autour de ce jeune sénateur où les foules couraient, qui maniait bien le verbe en public. Tout ça, ça n'arrivait pas à la convaincre et elle voulait pas le recevoir à la chancellerie avant qu'il soit élu. Et il y avait toute une histoire qu'il aurait aimé faire des grandes rallyes électorales en Allemagne, et puis Angela Merkel, elle avait beaucoup freiné. N'empêche, après, quand ils ont travaillé ensemble, ils ont très vite été convaincus l'un et l'autre par le sérieux, par la parole donnée, et puis Obama l'estimait beaucoup et l'a présenté comme le leader du monde libre, en quelque sorte. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'elle restait contre Donald Trump.
Alors Helmut Kohl était resté aussi longtemps qu'Angela Merkel, mais à la fin, il a été battu par Gerhard Schröder. Mmh. Vous parliez de figure morale en parlant d'Angela Merkel. C'est vrai que c'est en trahissant Helmut Kohl et en l'évinçant au moment de l'affaire des caisses noires de la CDU qu'elle va devenir la présidente du parti et que va s'ouvrir pour elle la voie de la chancellerie. Helmut Kohl, c'est quand même lui qui en avait fait une ministre alors qu'elle n'avait que 36 ans. C'était son mentor.
Oui. Helmut Kohl, le premier de toute une série de hommes puissants de la chrétien-démocratie allemande de l'Ouest, des Rhénans, du Sud-Ouest, avait sous-estimé Angela Merkel. Il avait vu du potentiel. Helmut Kohl, en 91, après les premières élections de l'Allemagne réunifiée, il y fallait pour son gouvernement quelqu'un de jeune, il fallait rajeunir, il fallait une femme. Il était toujours en manque de femmes ministres. En plus qu'elle venait de l'Est et qu'elle était protestante, ça cochait toutes les cases pour lui. Et ça s'arrêtait à peu près là. Il lui donnait un ministère des femmes et de la jeunesse qui, à l'époque, n'était pas considéré comme très importante. Mais Angela Merkel, ensuite, elle a su saisir les options, les chances qui se présentaient. Et puis, elle n'a jamais eu, dans toute sa carrière politique, des états d'âme. On n'y a jamais connu d'état d'âme. S'il s'agissait de renvoyer Helmut Kohl, qui était quand même, après sa longue période à la chancellerie, le président d'honneur du CDU, sans état d'âme, et l'expliquer qu'il fallait se séparer, il fallait tirer un trait et faire toute la lumière. Et puis, dans la foulée, il n'a pas seulement expédié Helmut Kohl, mais aussi son successeur à la tête du parti, Wolfgang Schäuble, qui était à un moment pressenti pour devenir le successeur de Kohl et qui était à la tête du parti. Et sans le ménager non plus, Angela Merkel avait réussi à le renvoyer chez lui dans son premier temps et ensuite même à en faire un de ses plus fidèles ministres et collaborateurs, d'abord comme ministre des Finances, ensuite à la tête de l'Assemblée fédérale où il organisait les majorités.
Stéphane Seydorf, on va faire une pause, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Stéphane Seydorf, le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. On voit bien, nous les Français, qu'il y a un style Merkel, sobre, modeste, rassurant. Mais est-ce qu'il y a une politique Merkel qui puisse inspirer ses successeurs? C'est le contraire d'une idéologue, dirait-on. Il lui est souvent arrivé de changer d'avis, de faire le contraire de ce qu'elle avait fait jusque-là, sur le sauvetage de la Grèce, sur le nucléaire après Fukushima, ou en ouvrant les frontières à 1 million de réfugiés en 2015. Elle a été la seule en Europe à ce moment-là, à vouloir éviter une catastrophe humanitaire. Alors voilà, est-ce qu'il y a une idéologie Angela Merkel?
Certainement pas une idéologie, je pense. Si on regarde son parcours personnel, qui avait quand même vécu 35 ans dans ce système autoritaire en Allemagne de l'Est, elle est immunisée contre les idéologies. Ça l'empêche de réfléchir, elle dit. Quand on veut la mettre dans un corsage de pensée, ça l'empêche de réfléchir et elle trouvera pas de solution adéquate. Donc on peut dire, plus prosaïquement, c'est un style très très pragmatique. Elle est physicienne, hein, elle est très scientifique dans son approche aux affaires politiques, et donc on peut peut-être dire que elle voit très souvent plus rapidement que d'autres où un compromis possible peut se situer. C'est très utile évidemment dans ce système fédéral et parlementaire comme en Allemagne où le président ne peut pas tout décider, mais elle dépend donc de sa majorité au Parlement. Plus, très souvent, elle a besoin de l'accord des 16 président de région des Bundesländer pour pouvoir faire passer une législation, une décision politique. Donc elle est en permanence en train de négocier. Et la même chose peut expliquer son succès relatif au niveau européen, où il s'agit aussi au niveau des chefs d'État et des gouvernements de négocier en permanence. Et très souvent, quand les autres, ils voulaient rester sur leur position, ou n'avaient plus envie puisqu'il était 4 heures du matin, ou alors ils ne voyaient vraiment plus de solution, ils voyaient encore un compromis possible. Et là, sans état d'âme, encore une fois, cette tendance à dire que c'est cette position-là qu'elle avait toujours défendue et qui allait prévaler en fin de compte. Et c'est ça, ce pragmatisme et cette capacité de se distancer sur un coup de tête d'une position qu'il avait encore défendue la veille, qui font aussi son succès, son longévité politique.
Sur le plan économique, elle laisse une Allemagne plus riche que jamais. Le taux de croissance sous son règne n'a jamais tellement faibli et la baisse du chômage a été plutôt forte. Il n'y a vraiment aucune ombre au tableau ?
Ah, certainement sur l'économie, notamment les grands défis qu'elle avait du mal à relever avec cette approche, c'est évidemment tout ce qui demande une vision politique, un leadership un peu sur le long terme qui définit des objectifs, des buts et qui ensuite cherche à expliquer, à rallier l'opinion publique, les majorités. C'est dans cet exercice-là qu'elle n'a pas franchement excellé. Elle a beaucoup profité des réformes de son prédécesseur, le social-démocrate Gerhard Schröder, qui avait vraiment modernisé ce système social et économique de l'Allemagne, aussi au prix de un creusement des inégalités, et elle a peu fait pour remédier au problème de ces réformes. Donc beaucoup de choses, donc la question de comment financer les retraites dans une société vieillissante, la question de où est-ce qu'on va trouver du main-d'œuvre qualifiée puisqu'on a de moins en moins de jeunes, toutes ces questions très structurelles en fin de compte, hein, qu'on ne peut pas résoudre avec une seule décision, un seul compromis. Elle n'a pas prêté beaucoup d'attention, comme aussi au niveau européen, où on peut faire le même argument.
Sur le numérique aussi, l'Allemagne, c'est à peu près le niveau de l'Albanie, et sur l'environnement aussi, on lui fait des reproches.
Oui, voilà, à chaque fois, quand il s'agissait de voir vraiment très loin et de fixer des objectifs un peu ambitieux, liés à une vision qui ensuite peut se retourner contre soi-même aussi si on ne réussit pas à rallier une majorité ou à réaliser cette politique. Elle a toujours été très prudente. Donc tout ce qui concerne les infrastructures, la modernisation de l'Allemagne est lié à cette politique de avoir de orthodoxie budgétaire, on va dire, avoir très peu de déficit public, donc il n'y a pas de moyens pour investir dans les infrastructures, au niveau de l'éducation aussi, il y a certainement des défis à relever. Ça vaut aussi pour la transformation écologique, où elle a quand même aussi été pragmatique. Souvenez-nous, à un moment, quand elle a pris le pouvoir, elle voulait revenir en arrière sur la décision de sortir du nucléaire de son prédécesseur Gerhard Schröder. C'était une des promesses de la campagne. Et donc, on démarrait les premières étapes pour revenir en arrière, rester encore prolonger le nucléaire. Arrive Fukushima, l'accident nucléaire à Fukushima, et elle explique du jour au lendemain, en voyant qu'il y a une très grande majorité des Allemands qui sont contre cette énergie nucléaire, qu'on allait donc sortir du nucléaire, et elle mettait ça en œuvre sans prendre en compte toutes les conséquences, notamment le besoin de continuer à faire tourner les centrales au charbon.
Les élections fédérales ont donc lieu aujourd'hui. Les candidats à sa succession s'inspirent d'Angela Merkel ?
Oui, c'est ce qu'on peut dire, hein, la moindre des choses. C'est très étonnant le tableau. On avait commencé, toute l'Allemagne était enchantée par cette jeune femme verte qui semblait incarner le changement, hein, générationnel, par son approche, par sa manière de mettre sa famille, ses petits-enfants, de mettre sa condition de mère de deux jeunes enfants qui travaillent en politique au milieu de sa politique aussi. Et puis, elle n'arrêtait pas de décrignoler dans les sondages. Le candidat de Angela Merkel, Armin Laschet, il n'arrivait pas vraiment à monter non plus, alors que lui, il donnait toutes les gages pour poursuivre, et tout en rondeur, tout en chaleur rhénane, mais en même temps, sans s'offenser personne. Et puis le troisième qui est aujourd'hui en tête, mais c'est très très proche, on ne pourra pas dire qui va vraiment l'emporter ce soir, c'est le ministre des Finances d'Angela Merkel, sauf qu'il est en même temps une des figures les plus influentes des sociodémocrates, donc le parti qui a gouverné avec Angela Merkel, mais qui est en même temps le premier opposant dans le jeu politique. Et ce Olaf Scholz, il avait même osé le courage de copier Angela Merkel en montrant le losange, vous savez, le symbole avec les mains qu'elle fait pour se concentrer ou pour se tenir droite sur les photos. Et là, ça allait un peu loin. Les commentateurs, ils trouvaient qu'il prenait un peu trop de risques, donc il ne l'a plus répété, mais il avait même à un moment copié Angela Merkel sur son symbole fétiche.
Merci Stéphane Seydendorf. Je rappelle qu'il y a un podcast en français sur les élections allemandes produit par Hélène Kohl, notre correspondante d'Europe 1 à Berlin, en collaboration avec l'Institut franco-allemand. C'est sur le site de l'Institut www.dfi.de, DE c'est Deutschland. Et votre dernier livre, Partir pour grandir, qui est publié par les presses de l'OFAGE. On a rendez-vous maintenant avec Guillaume Pitron, l'auteur de L'Enfer numérique.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Guillaume Pitron.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes journaliste réputé pour vos enquêtes au long cours. Votre premier livre, La guerre des métaux rares, pour laquelle je vous avais déjà reçu sur Europe 1, a été traduit dans une douzaine de pays et c'est devenu un documentaire sur Arte. Aujourd'hui, vous publiez L'Enfer numérique, au lien qui libère. Vous avez suivi pendant 2 ans la route de nos emails, de nos likes, de nos selfies, de nos hashtags, des vidéos et des photos que nous postons sur Internet. On croit que le numérique n'a aucun impact matériel sur la planète, mais c'est faux. La pollution digital est considérable, c'est bien pire que le trafic aérien, dites-vous.
La pollution de nos données et de toutes nos interactions numériques, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, un peu moins. Or, le trafic aérien civil mondial, c'est 2,5%, donc c'est 1,5 fois plus.
Oui,
donc
c'est vraiment bien grave. Le livre est sous-titré « Voyage au bout d'un like ». Résumez-nous par où passent ces petits pouces levés que nous envoyons par millions sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres.
Le like, c'est un petit peu le symbole de nos vies connectées. En fait, le like, lorsque je presse « like » sur mon téléphone, d'abord le like va aller à l'antenne 4G qui est au-dessus de moi ou à ma box Wi-Fi si je suis chez moi. Puis il va descendre ensuite via des câbles sous les trottoirs, rejoindre d'autres câbles, souvent traverser un océan, généralement océan Atlantique, parce que ce like appartient à Facebook. Donc du coup, il va se retrouver dans un centre de traitement de données où ce like est stocké, faire chemin inverse à nouveau par l'océan Atlantique via des câbles sous-marins, puisqu'en fait 99% de nos likes et de l'information passent non pas au-dessus de notre tête dans des satellites, via des satellites, mais sous les mers, et se retrouver dans le téléphone du voisin qui a été liké, même si ce voisin se trouve à 2 mètres de moi, en réalité là, il a fait tout ce chemin-là. Donc il y a une infrastructure absolument colossale pour avoir des vies sensiblement dématérialisées.
Alors cette pollution est d'abord due aux 34 milliards d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes que nous utilisons pour aller sur Internet. Il faut les fabriquer. Hein. Un smartphone par exemple contient plus de 50 matières premières.
Oui, parce qu'un téléphone portable, Frédéric Taddeï, ne sert pas que téléphoner aujourd'hui, c'est même très accessoire. Il sert à se géolocaliser, à prendre des photos, des vidéos, commander une pizza, rencontrer l'âme sœur. Et donc, les fonctionnalités du téléphone se sont multipliées. Or, on veut des téléphones toujours plus beaux, toujours plus miniaturisés, et donc pour lesquels il faut toujours plus de matières premières, souvent des alliages, des matières mélangées les unes aux autres. Et en fait, ce téléphone est un concentré de technologie qui nécessite, qui a un impact colossal sur l'environnement quand on réfléchit à la façon dont il faut le fabriquer pour l'avoir ensuite tout miniaturisé, tout beau, tout propre, censément propre dans notre poche.
Oui, et pas longtemps, puisqu'on le garde quoi en moyenne 4 ans à peu près, un téléphone, pas beaucoup plus pour un ordinateur.
Moi, je pense plutôt 18 mois, 2 ans.
Résultat, nous produisons des quantités absolument astronomiques de déchets électroniques. Là aussi, vous avez fait le calcul.
5000 tours Eiffel de déchets électroniques sont produites chaque année.
5000 tours Eiffel.
Toutes sortes de déchets électroniques. Donc l'enjeu, l'énorme enjeu, ça va être de savoir comment est-ce qu'on recycle tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces rebuts qui n'ont pas de valeur et qui pourtant vont devenir les mines, enfin les cartes trésors de demain. Les cartes trésors de demain seront précisément ponctuées de toutes ces mines urbaines qui aujourd'hui sont difficilement valorisables mais qui demain vaudront beaucoup d'argent.
Cette pollution, elle provient également des données que nous produisons. Il faut les transporter, les traiter, les stocker, comme les likes que vous décriviez tout à l'heure. Il faut des câbles, des routeurs, des bornes Wi-Fi, des antennes 4G ou bientôt 5G. La pollution est terrible.
À chaque fois, c'est une pollution additionnelle pour multiplier tous ces équipements, évidemment. Et puis, nos likes vont terminer, à un moment ou à un autre, stockés dans des centres de données, ce qu'on appelle aussi des data centers, qui stockent la mémoire du monde. Et ils ne vont pas être stockés que dans un seul endroit. En fait, toutes nos vies numérisées sont stockées dans des tas de data centers, elles sont dupliquées, parce que si un data center tombe en panne, il faut qu'immédiatement un autre centre de données prenne le relais.
Oui, parce qu'on n'aime pas attendre, c'est ce que vous dites tout le temps dans votre livre, on n'aime pas attendre, on veut que tout arrive tout de suite sur Internet, et pour ça, il faut dupliquer les data centers.
Voilà, et donc votre messagerie Gmail, si vous en avez une, moi j'en ai une, serait stockée, a dit Google, dans 6 endroits différents de la planète, dans 6 data centers, pour que vous soyez proche d'un data center au monde vous connectez, et puis pour qu'il y ait des centres de données qui assurent la continuité de service, parce que si jamais il y en a un qui tombe en panne, ce serait insupportable d'attendre 3 secondes de trop, et donc il va falloir tout redonder. Et donc tout cela, naturellement, c'est de la matière, c'est encore des infrastructures à construire qu'il faut brancher au réseau, et puis il faut naturellement les refroidir, puisque ça chauffe, donc pour cela il faut des systèmes de climatisation qui consomment de l'électricité. D'où vient l'électricité? Et donc, il y a un coût énergétique, un coût électrique, et donc forcément un coût en matière de, en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a évoqué tout à l'heure.
Il y a actuellement plus de 3 millions de data centers sur la planète qui consomment donc de l'eau pour les refroidir, vous l'avez dit, et de l'électricité qui peut être produite par des mines de charbon.
Qui peut être produit par les mines de charbon. C'est le cas notamment des mines de charbon dans les Appalaches, où je me suis rendu. Grande zone d'extraction charbonnière encore aujourd'hui, et une partie de ce charbon sert à fournir de l'électricité, et la source de l'électricité qui sert notamment à faire tourner la Data Center City, comme on dit, d'Ashburn, qui est une ville qui se trouve au sud de Washington, et par laquelle transitent 70% de nos données. Sauf qu'à la base, il y a une pratique de l'enlèvement de sommets de montagne. C'est-à-dire qu'en fait, on fait sauter les sommets des montagnes des Appalaches à la dynamite pour en retirer le charbon. Donc c'est un peu aplati quand on y va. Voilà, il y a un impact, encore une fois, où que l'on aille, on voit cet impact, pour peu qu'on ouvre les yeux et qu'on aille au bon endroit.
Vous êtes rendu également dans un village du nord de la Suède, qui est dans le Grand Nord, carrément, où toutes les données produites en Europe par Facebook, mais aussi par ses filiales Instagram ou WhatsApp, se retrouvent regroupées.
Oui, parce que Facebook a constaté que il fallait rapprocher un centre de données des utilisateurs européens, mais aussi africains et du Moyen-Orient. Constate également que sa réputation est engagée, est entachée par tout ce que nous disons actuellement et qui commence à bruisser dans les médias et sujet que Greenpeace aime bien évoquer. Et donc Facebook en 2013 se dit mais comment est-ce que je pourrais vendre l'histoire d'un data center green, vert, au Grand Nord, qui consommera moins d'électricité puisqu'il n'aura pas à être refroidi avec une climatisation artificielle. Il suffira d'ouvrir la porte du data center finalement pour refroidir nos données. Et donc tout cela se retrouve en 2013 au fin fond de la Suède où je me suis rendu et où il y a finalement tous mes amis sont là-bas en fait. Toutes les vidéos de chats, toutes les invectives, toutes les admonestations, tous les likes se trouvent dans ce hangar-là.
On fait une pause, Guillaume Pitron, et on retourne dans le hangar.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Guillaume Pitron, l'auteur de L'Enfer numérique. On était devant ce hangar, probablement gigantesque.
Trois terrains de football.
Voilà, trois terrains de football dans un village du nord de la Suède.
Sous des mètres de poudreuse.
Voilà, où se retrouvent comme ça absolument toutes les données que nous postons sur Facebook, sur Instagram, toutes nos photos, elles sont là-bas. Et on se dit, est-ce que c'est bien gardé? Parce que tout à coup, forcément, c'est stratégique. C'est devenu tellement important.
C'est ultra stratégique. De fait, c'est bien gardé. Donc, moi, je n'ai pas pu rentrer dans le data center, c'est juste impossible. Même si j'aurais aimé voir où étaient mes amis, dans quel serveur, j'aurais aimé les rencontrer, même virtuellement. Non, en fait, c'était très bien gardé par toutes sortes de gardes. Et d'ailleurs, je me suis présenté en touriste. J'ai dit j'étais curieux de rencontrer mes amis sur Facebook et je me suis fait prestement éjecter. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je reste là. On les sentait un peu embêtés. Donc voilà, ce sont des zones critiques, stratégiques, difficilement approchables, difficilement visitables. D'où la raison pour laquelle finalement on a l'impression qu'Internet est virtuel.
Mais aux guerres pour le pétrole, qui ont été extrêmement nombreuses hein, tout au long du XXe siècle, risquent de s'ajouter désormais des guerres pour les routes du numérique. Approvisionnement, vous l'avez dit, toutes ces matières premières qui deviennent elles aussi stratégiques, à la fois pour construire nos téléphones, nos ordinateurs, mais aussi nos drones et nos avions de chasse. Et puis jusqu'à ces endroits où se concentrent toutes nos données, ça intéresse beaucoup de monde. En cas de conflit, ça pourrait être aussi, là encore, stratégique.
Absolument. Alors d'abord, toutes les matières premières de nos téléphones portables, il faut bien aller les chercher quelque part. Cet été, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les talibans étaient assis sur un pactole de lithium, de terres rares.
Et d'où puis, notre intérêt pour l'Afghanistan depuis quelques temps déjà.
Voilà, et puis tout d'un coup l'intérêt des Chinois qui disent si, on va faire des affaires avec les talibans. Attendez, on va financer les talibans pour pouvoir avoir des téléphones portables, parce qu'il faut du lithium et des terres rares pour nos téléphones portables. Donc il y a des enjeux géostratégiques absolument colossaux autour de ces matières premières, je l'avais évoqué déjà dans un précédent livre. Et puis là où j'ai ouvert une nouvelle fenêtre dans ce nouveau livre, L'enfer numérique, c'est que les data centers, ces centres de données, c'est absolument stratégique. En cas de guerre, c'est la première chose qui est visée par un missile. Et les câbles sous-marins, il y en a officiellement 500, mais enfin, à peu près 500, enfin, il y en a probablement beaucoup plus. Ce sont des infrastructures critiques pour les télécommunications entre pays et des armées entre elles. Donc en fait, toute cette infrastructure-là, qui prend un espace géographique, qui est matériellement visible, comment est-ce qu'elles vont être observées, espionnées, éventuellement sabotées, actes de malveillance, et donc pour lesquels il va falloir se défendre. Donc comment est-ce qu'elles vont être protégées par des États qui vont vouloir justement assurer la sécurité des infrastructures? Et c'est là qu'arrive la route de la soie numérique. La route de la soie chinoise, c'est pas seulement les ports, les routes, les voies de chemin de fer, c'est aussi ce câble qui s'appelle PEACE, qui est un câble qui est en train d'être raccordé à Marseille, qui arrivera en 2022 à Marseille, et qui part de la Chine, qui passe par le Pakistan, et tout le tracé du câble est stratégique. Et les think tanks américains, certains se disent, mais est-ce que cette infrastructure critique d'Internet va permettre demain à la Chine de prétexter de la sécurisation de cette infrastructure pour déployer ses armées le long de ce câble. Donc en fait, est-ce que demain des États se feront la guerre pour que vous et moi puissions liker et nous distraire?
Comme on s'est fait la guerre pour que nous puissions partir en week-end en voiture tout au long du XXe siècle.
Peut-être que le jeu n'est que la continuation de la guerre par d'autres moyens.
Mais ce qui est fascinant dans votre livre, Guillaume Pitron, c'est qu'on se rend compte à quel point cette économie qu'on dit immatérielle n'a rien d'immatériel. Elle est profondément matérielle.
En fait, plus c'est virtuel, plus c'est matériel. C'est complètement contre-intuitif, mais plus on va vers des produits petits, beaux, qu'on a dans les poches, des téléphones portables, etc., qui sont légers, plus paradoxalement, le leg matériel de ces produits, de ces interfaces, tablettes, ordinateurs, est lourd parce qu'il faut les fabriquer. Et puis, quand on regarde toute l'infrastructure qui a été développée, déployée, Greenpeace nous dit quand même qu'elle est en passe de devenir la chose la plus vaste, la plus grande que l'homme n'ait jamais construite de l'histoire de l'humanité. Tout ça pour un soi-disant nuage, qui n'a de nuage que le nom. Et donc, nos vies dématérialisées n'existent pas, c'est un mythe, c'est un grand récit du capitalisme qui, et je ne suis pas anticapitaliste, mais qui certainement voudrait faire coïncider l'enrichissement sans fin des populations avec la préservation des écosystèmes. En réalité, c'est un coût matériel absolument colossal et qui va ne faire que croître dans un monde de 5G avec toutes les données de plus en plus stratégiques pour nos économies qui vont devoir être stockées de plus en plus.
Et avec l'Internet des objets, quand tout sera interconnecté, ce sera encore pire.
Quand on va tout interconnecter, c'est ce que veulent certains technoprophètes qui annoncent non pas seulement l'Internet des objets, mais l'Internet de tout, Frédéric Taddeï, c'est-à-dire que moi je vais être un objet connecté, et du coup je vais être un déchet électronique, pour lequel il faudra que pour moi il y aura des filières de recyclage.
Voilà, pour vos prothèses en tout cas.
Pour mes prothèses, mais aussi pour les implants que j'aurai sous la peau, qui me permettront peut-être demain de rentrer dans Internet différemment qu'avec mon téléphone portable. Donc si on multiplie le nombre d'humains connectés par le nombre d'animaux connectés, par le nombre de végétaux connectés, par le nombre d'objets connectés, et on parle déjà de 500 milliards d'objets connectés, l'Internet de tout, c'est une production absolument faramineuse de données. Je veux dire, vous et moi, nous sommes des australopithèques par rapport à l'Internet de 2031 dans 10 ans, si on se retrouve ici sur Europe 1. C'est absolument colossal ce qui s'annonce. Donc on dit, il faut que je vide ma boîte mail, c'est absolument indispensable. Mais en fait, je vide l'océan à la petite cuillère face au tsunami de données qui se prépare. Et alors, on va les stocker, on va les faire transiter comment?
Et
quel va être l'impact matériel de tout ça?
Et puis il y a les robots. Les robots pollueront encore plus que les humains et les animaux connectés.
Mais déjà, plus de données sont produites par des robots aujourd'hui que par des hommes. Et donc ça ne va aller qu'en s'accélérant avec un Internet de robots, fait par les robots, pour les robots, nous jouerons un rôle tout à fait subsidiaire dans, dans cet écosystème qui tournera sur lui-même. Et les enjeux devant nous sont absolument passionnants, colossaux. Et j'ai découvert un monde incroyable.
L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, ça vient de paraître au lien qui libère. Merci Guillaume Pitron d'être venu nous le raconter sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec une grande pianiste, c'est Claire-Marie Le Guay.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Claire-Marie Le Guay, bonjour.
Bonjour, Frédéric
Taddeï. Vous êtes une grande pianiste. Vous avez commencé le piano à 4 ans. Votre carrière de soliste a débuté à 15 ans. Depuis, vous avez joué dans les plus grandes salles. Et vous sortez un nouvel album consacré à Franz Liszt, votre compositeur de prédilection. Il s'intitule « Joie de l'âme ». C'est Liszt lui-même, hein, je crois, qui utilisait cette expression.
Oui, ça vient d'une citation de lui qui est « Ce n'est pas par les surfaces, c'est par les profondeurs que l'on mesure les joies de l'âme ».
Oui, il parlait de musique, à votre avis, quand il
oui,
disait cela.
Il parlait de musique, il parlait peut-être aussi de tourments. On parle des joies de l'âme, mais s'il y a joie, c'est qu'il y a eu aussi, vous savez, c'est l'ombre et la lumière. Les joies de l'âme, c'est tout ce que la musique peut nous... Là où la musique peut nous transporter, en fait.
Bah, le meilleur exemple, c'est Rêve d'amour, qui est devenu depuis un tube de la musique classique. Hein. On va en écouter tout de suite un extrait, c'est vous, évidemment, qui l'interprétez. Prédilection pour Franz Liszt, Claire-Marie Le Guay, c'est le quatrième album que vous lui consacrez.
Oui, il y a eu les concertos de Liszt enregistrés avec Louis Langré, il y a eu effectivement des disques piano seul. Pourquoi ? Je pense qu'on entend tout de suite en fait dans ces quelques notes. Pourquoi ? C'est la générosité de cette musique, le fait qu'on a l'impression qu'elle nous transporte, elle nous prend dans ses bras et elle nous élève, elle nous emmène en voyage Il y a tout en fait dans la musique de Liszt. Il y a la tendresse, il y a la passion, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la fougue, il y a la séduction. Vraiment, il y a un éventail de sentiments, d'états d'âme qui est très très large.
D'état d'âme, exactement. C'est vraiment un compositeur de l'intime, hein, comme Chopin. C'est le 19e siècle, c'est le romantisme qui apporte ça.
Oui, alors c'est l'intime effectivement, mais c'est aussi le grandiose. Liszt était celui qui a transformé l'histoire des concerts en créant ses concerts dans les grandes salles. C'était une grande star. Et donc, les salons n'y suffisaient pas. Il y a cette grandeur chez Liszt. Il fallait des grandes salles. Il y avait beaucoup de public. Il y avait beaucoup de femmes séduites. Il y avait, voilà, c'est une grande dimension. Il y a aussi l'intime, effectivement, qui est peut-être moins souvent montré chez lui. Il y a cette douceur, cette tendresse.
On l'entend par exemple dans ses consolations, on va vous écouter jouer une de ses consolations. On dirait que c'est le chaînon manquant entre la symphonie et les chansons d'aujourd'hui, les chansons modernes, sauf qu'ils ne se contentent pas de répéter toujours les mêmes notes, hein, comme dans les chansons modernes.
Oui, c'est très juste que vous parliez de symphonie, parce que vraiment c'est un des compositeurs qui utilise le plus le piano comme un orchestre. Et le piano sonne comme un orchestre avec Liszt. Et en même temps, vous parlez aussi de la chanson, et c'est vrai que là, dans ce qu'on vient d'écouter, on a l'impression qu'il nous... qu'on pourrait chacun mettre des mots finalement sur ce qu'on entend, nos propres mots, qui, les miens seront différents des vôtres et seront différents des auditeurs, mais des mots des auditeurs. Voilà, il nous parle et il nous invite finalement à nous parler à nous-mêmes aussi.
Alors vous le disiez, c'était une star énorme au 19e siècle, Franz Liszt. Il donnait des concerts dans toute l'Europe, les billets s'arrachaient, les femmes en étaient folles. On a parlé de listomania.
Oui, c'est un phénomène qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Pour la musique classique, c'est bien regrettable, mais il était acclamé par les foules. Quand il arrivait quelque part, les avenues étaient emplies, on l'acclamait sur son passage. Donc vraiment, c'était un phénomène incroyable. Il y en avait deux à cette époque-là. Il n'y avait Paganini pour le violon, qu'on connaît sans doute plus d'ailleurs que Liszt, et Liszt au piano. Et donc, voilà, c'est une révolution en fait, Liszt. C'est la révolution de l'image de l'artiste qui est un artiste romantique, mais qui n'est pas cet artiste romantique malade, fragile,
physique.
Pauvre, physique, mal aimé. Non, au contraire, Liszt, c'est un astre. Il attire la lumière, il fait rayonner autour de lui. Donc voilà, c'est vraiment un grand changement.
Et il a fini à B. C'est quand même drôle pour quelqu'un qui a été adulé par les foules.
Oui, avec quelques remous quand même, avec toujours ce rapport aux femmes pas très très loin, mais cette profondeur dont on parlait au début et qui est là tout le temps et qui était là au début de sa vie puisqu'il a hésité à devenir prêtre. Et en fait, il a créé comme ça une arche dans sa vie. Il a vécu vieux, hein, il a vécu 77 ans. Donc il a eu une vie d'une richesse absolument fascinante, avec beaucoup de voyages, avec une phase d'homme marié à une femme un peu idéalisée, Marie d'Agoult, une comtesse extraordinaire, avec toutes ces séductions dont on parlait, et puis avec cet ancrage de foi et de profondeur et de recherche de recherche d'élévation qui est toujours là dans sa musique.
Et puis c'était un maître de la transcription, hein. Il prenait des morceaux qui avaient été composés pour un orchestre symphonique et puis il en faisait un morceau joué par le piano seul, parce qu'il se produisait seul avec son piano sur scène. Un exemple, la mort d'Isolde dans Tristan et Isolde de Wagner, qu'il a transcrit pour le piano. On vous écoute l'interpréter, un extrait évidemment. La transcription, c'est une transcription de Liszt, d'ailleurs, de la cinquième de Beethoven, qui m'a permis de comprendre enfin la beauté de la cinquième de Beethoven, interprétée par Glenn Gould. Mais voilà, tout à coup, on entend tout l'orchestre, ou plutôt, on entend le piano jouer tout l'orchestre.
Oui, alors, effectivement, cette transcription, la transcription en général, c'est cette façon d'entendre un peu différemment, donc effectivement, qui peut révéler une écoute. Et puis là, dans le cas de Liszt, il y a un phénomène quand même très intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on parle de musique contemporaine, il y a une petite appréhension qui naît tout de suite. À l'époque de Liszt, la musique n'était que musique contemporaine. En fait, on ne jouait que la musique de son temps. C'était extrêmement rare de jouer la musique du passé. Et donc, quand ils jouaient Beethoven, ils ressortaient en fait des œuvres très très anciennes. Alors que pour nous, les choses se sont un peu inversées. Et donc, Liszt au piano, Liszt transcrivant les compositeurs de son temps, c'était une façon de faire connaître les compositeurs de son temps, ses amis, les gens qu'il estimait. Et il avait cette générosité-là de vouloir faire partager au plus grand nombre, puisqu'il attirait les foules, la musique, écrivait ce qui l'entourait.
Merci Claire-Marie Le Guay. Joie de l'âme, c'est votre tout nouvel album. Et vous êtes évidemment en concert dans toute la France. La prochaine fois, c'est où ?
Le 1er octobre à la Grande Scène du Chênay, dans un programme Liszt, justement.
Justement, Liszt.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Qui est votre invitée, Sonia ?
Bonjour Frédéric. Mon invité pour le grand rendez-vous sera Éric Zemmour. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.
Merci Sonia, bonne émission.
Europe 1.